et c'est le journal de Laurence Thomas. Bonjour Laurence.
Bonjour.
À la une de l'actualité, Laurence, c'est l'Afghanistan avec la prise de la deuxième ville, Kandahar, annoncée cette nuit par les talibans. Les talibans qui réinstallent leur pouvoir à un rythme effréné. Les Américains remobilisent des milliers de militaires pour évacuer leurs diplomates et leurs ressortissants. On en parlera aussi de l'Afghanistan à 7h50 avec Olivier Roy, chercheur au CNRS, grand connaisseur de l'Afghanistan, sur la progression donc des talibans en Afghanistan. Les autres titres, Laurence.
Ce coup de gueule d'Olivier Véran depuis le CHU de Fort-de-France en Martinique, le CHU débordé par les patients Covid. Coup de gueule du ministre de la Santé contre cette minorité de Français dans la rue qui protestent contre le vaccin. À ce jour, dit-il, il n'y a rien de mieux que le vaccin pour se protéger du virus. La géothermie ou comment, à l'avenir, se protéger des chaleurs caniculaires sans endommager la planète. Nous verrons cela avec un futur éco-quartier près de Paris. Et puis le père de Britney Spears renonce à continuer d'assumer la tutelle de sa fille, la chanteuse. Peut-être la fin d'une bataille juridique ultra médiatisée avec sa fille.
Un mot aussi du grand entretien tout à l'heure à 8h20. Deux femmes photographes qui exposent à Arles cet été, Charlotte Abramoff et Clarisse Anne. L'une photographie les femmes avec malice et l'autre les hommes dans la rue avec gravité.
France Inter.
L'inexorable avancée des talibans en Afghanistan, après s'être emparés d'une douzaine de provinces en quelques jours, ils ont affirmé cette nuit avoir pris la ville de Kandahar. Le gouvernement afghan a désormais perdu le contrôle de la plupart des territoires du nord, du sud et de l'ouest du pays. Ne reste plus que l'est avec Kaboul. Le point avec notre correspondante en Afghanistan, Sonia Ghezali.
Ce sont des prises majeures pour les talibans, notamment Kandahar, tout un symbole. C'est dans cette province que le mouvement est né. La ville de Kandahar était le siège du pouvoir taliban sous leur régime entre 1996 et 2001. C'est une ville stratégique, elle donne l'accès à tout le sud et elle est reliée à Kaboul par la route. Elle a une frontière avec le Pakistan. La chute de Kandahar est un coup dur pour le gouvernement afghan. Des talibans marchent l'air détendu dans le centre-ville où ils ont érigé leur drapeau. C'est ce que nous ont raconté des habitants sur place que l'on a joints par téléphone. Des centaines de familles ont trouvé refuge dans le quartier Ainomina, qui est le plus riche de la ville. Tout le monde craint que l'aviation afghane mène des raids aériens sur la ville de Kandahar, où des milliers de personnes ayant fui les districts ont trouvé refuge au cours de ces dernières semaines. Ce matin, c'est Lashkarga, la capitale de la province voisine du Helmand, où les talibans ont libéré tous les prisonniers hier, qui est tombé entre leurs mains.
Sonia Ghezali, face à l'avancée des talibans, américains, britanniques, allemands demandent à leurs ressortissants de quitter le pays. Les États-Unis remobilisent 8000 soldats, un redéploiement massif, officiellement pour évacuer les diplomates et les ressortissants américains, mais peut-être également pour dissuader les talibans de prendre Kaboul et son aéroport. Autrement dit, les prochaines heures seront cruciales. Des heures angoissantes aussi pour ces Afghans réfugiés en France qui suivent la situation de Horner. Des migrants soulagés d'un côté, car la France a suspendu début juillet leur expulsion en raison précisément de l'intensification des combats. Mais comment se réjouir, sachant que leurs familles sont en danger? C'est le reportage de Saber Gendoubi auprès de jeunes Afghans réfugiés à Paris.
Khalil est un jeune demandeur d'asile de 24 ans. Après une longue errance, l'Afghanistan, l'Autriche, c'est direction Paris, où depuis 2017, ses valises sont posées et où il attend d'avoir ses papiers. Alors, pour le jeune homme, la décision des autorités françaises de suspendre les expulsions vers son pays d'origine, ça le rend à la fois joyeux et perplexe.
Je suis très content de la décision de la France. C'est un soulagement car je ne serai pas expulsé de force. Mais je sais que ma famille est en danger. Et comme je ne suis pas régularisé, je ne peux pas travailler, leur envoyer de l'argent et les soutenir financièrement. Ça, c'est un sentiment qui me dérange beaucoup.
Un sentiment partagé par Hosseini, 21 ans, lui aussi a connu plusieurs années d'exil à travers l'Europe. Aujourd'hui, sa chance est à Paris, dit-il, mais son regard est braqué sur l'Afghanistan.
J'ai eu mon frère au téléphone et il m'a dit que les talibans sont à une demi-heure de mon village. Il n'y a plus qu'un poste de police et si les talibans détruisent ce poste, ils vont prendre mon village. Ma famille est en danger de mort, je pense à eux, je ne dors plus la nuit.
Selon les chiffres de 2020 de l'agence Eurostat, Khalil et Hosseini font partie de ces 44 000 Afghans demandeurs d'asile dans l'Union européenne.
Reportage de Saber Gendoubi.
Olivier Véran, le ministre de la Santé, est au CHU de Fort-de-France, en Martinique, où la situation sur le front du Covid est catastrophique.
Un taux d'incidence de 2000 pour 100 000 personnes. On ne ressort pas indemne de la visite de cet hôpital. Les gens étaient en bonne santé, ils sont aujourd'hui sur le ventre, intubés, dans le coma. pas un seul patient vacciné n'est en réanimation, a précisé le ministre de la Santé, qui s'est montré agacé, voire en colère face aux anti-vax, alors que de nouvelles manifestations sont annoncées pour demain en métropole.
Vous avez 200 000 personnes qui ont manifesté un samedi pour dire qu'ils ne voulaient pas du vaccin, avec des pancartes extrêmement bariolées et des motifs parfois extrêmement douteux, permettez-moi de le dire, voire complètement crades. Mais dans la même journée, vous avez deux ou trois fois plus de gens qui font la queue pour se faire vacciner en centre de vaccination. On doit davantage parler de celles et ceux qui font ce geste-là, parce que c'est aussi un message d'entraînement qu'on porte. Et alors que les hôpitaux se remplissent, on doit encore s'interroger pour savoir si on attend avant de se faire vacciner. Encore une fois, il faut être modeste. Il y a des choses qu'on ne sait pas expliquer, il y a des choses qu'on sait expliquer. Et dans les choses qu'on sait expliquer, c'est quand il y a des choses qui fonctionnent, parce que c'est avéré par la science et par les faits, et ça c'est le cas du vaccin. Et des choses qu'on sait expliquer, qui ne fonctionnent pas aujourd'hui, qui s'appellent des croyances, mais quand on est face à un virus qui tue, quand on est face à un virus qui bouche les poumons de jeunes de 20, de 30, de 40 ans, de 50 ans, qui n'ont rien demandé, se poser encore la question de savoir si par la pensée magique ou par je ne sais quelle théorie plus ou moins scientifique, on pourrait faire mieux qu'avec la vaccination, alors que le monde entier se vaccine, je le dis, ce n'est plus le temps de se poser ces questions-là. En responsabilité, on y va.
Olivier Véran, le ministre de la Santé, il y a quelques heures à Fort-de-France. Il est une arme supplémentaire pour la bataille contre le Covid-19, en particulier pour les immunodéprimés, sur qui le vaccin n'agit quasiment pas. Ce sont les anticorps monoclonaux, autorisés depuis quelques jours par la Haute Autorité de Santé, le fameux Regeneron, célèbre pour avoir traité Donald Trump. Ces anticorps, Véronique Julia, sont donnés en préventif aux personnes les plus fragiles.
On le sait, pour les greffés du rein par exemple, la troisième dose elle-même ne suffit pas. Près d'un tiers d'entre eux n'ont toujours pas d'anticorps après une troisième injection. Même chose pour certains malades de cancer du sang. Ces patients immunodéprimés n'arrivent pas à fabriquer les anticorps et quand ils y arrivent, ils ne le font pas aussi bien que les autres. On estime que 130 000 patients en France seraient ainsi non réactifs au vaccin, alors même que leur fragilité les expose à des formes graves. L'idée ici, c'est donc de leur administrer des anticorps déjà fabriqués. Une combinaison en fait d'anticorps dits monoclonaux qui vont cibler la protéine spike du virus et l'empêcher de s'accrocher. Le cocktail pourra être prescrit en pré-exposition, en amont de tout contact éventuel avec le Covid, ou même après exposition lorsque la personne immunodéprimée sera considérée comme cas contact. L'autorisation est pour le moment octroyée pour 5 mois, au cours desquels on va mesurer l'efficacité du traitement et l'émergence d'éventuelles résistances. Les anticorps retenus pour l'instant ont une efficacité, cela dit, qui n'est pas très longue, mais d'autres anticorps arrivent bientôt sur le marché qui devraient protéger les patients plus longtemps.
Véronique Julia.
La marche arrière d'Emmanuel Macron face à la colère des motards.
Le président a décidé de suspendre jusqu'à nouvel ordre le contrôle technique des deux roues motorisées. Une réforme imposée par une directive européenne de 2014, censée entrer en vigueur en France en 2023, mais devant le risque d'une nouvelle contestation, le chef de l'État a estimé que ce n'était pas le moment d'embêter les Français. Simon Le Baron.
Emmanuel Macron est bien placé pour le savoir. Tout ce qui touche à la route est hautement inflammable. La limitation de vitesse à 80 km/h, la taxe carbone qui a servi d'étincelle au mouvement des Gilets jaunes. Le président n'a évidemment pas oublié les épisodes précédents. Alors à 8 mois de la présidentielle, le chef de l'État n'a pas voulu prendre le risque de voir la colère des motards s'agréger à celle des antipasses, d'autant que ses adversaires politiques n'attendent que cela, une cristallisation des contestations qui lancerait leur campagne. Ce contrôle technique est-il donc abandonné ou simplement repoussé ? En guise de réponse, le ministère des Transports assure qu'il a d'autres priorités et promet de renouer le dialogue avec les motards à l'automne. Voilà qui ressemble fort à un enterrement de première classe. Sauf que cette réforme reste exigée par l'Union européenne. En cas de renoncement, la France pourrait alors s'exposer à des sanctions de Bruxelles. À défaut d'avoir réglé définitivement le problème, Emmanuel Macron a donc paré au plus pressé en éteignant ce nouveau départ de feu.
Simon Le Baron. Il n'a jamais fait aussi chaud en Europe, de mémoire de Météo France. Vague de chaleur en Italie, en Espagne, au Portugal, en France, 5 départements, les Alpes-Maritimes, le Var, l'Ardèche, la Drôme, les Alpes de Haute-Provence sont toujours en vigilance orange canicule. Autrement dit, de bonnes raisons pour faire tourner la climatisation à fond, mais c'est très mauvais pour l'environnement et pourtant à l'avenir, il faudra bien trouver des solutions. Il ne s'agit plus de confort à un tel niveau de chaleur. Alors l'avenir est sans doute au froid renouvelable grâce à la géothermie. Cela consiste à puiser dans la nappe phréatique de quoi produire de la chaleur qui va alimenter les bâtiments en chauffage et en eau chaude, mais aussi pour produire du froid. À Issy-les-Moulineaux, près de Paris, un écoquartier totalement piéton va sortir de terre d'ici un an, chauffé et climatisé à partir de la géothermie. L'énergéticien Engie innove en stockant de la glace. Delphine Simon.
On vient chercher l'eau à 35 mètres de profondeur, à 15 degrés.
Dans les parkings, en sous-sol, 4 puits géothermiques. L'eau est rafraîchie grâce à des thermofrigopompes. Elle peut aujourd'hui être stockée grâce à l'innovation d'Engie Solutions. Sa directrice adjointe Aurélie Leher ici.
C'est ces glaçons, comme ça, là, colorés, qui vont stocker le froid quand vous n'en avez pas besoin. Et on déstockera le froid, par exemple, dans l'après-midi, lorsque les bureaux ou les logements, ils auront besoin à ce moment-là de froid renouvelable.
De quoi rafraîchir 600 logements, écoles, des salles de cinéma, des boutiques, plus de 4000 m² de bureaux qui mutualisent le froid avec un engagement sur la facture, promet Dominique Goudard, responsable du projet pour le promoteur Altarea.
La facture sera de 700 euros pour un logement type 3 pièces de 65 m². Chauffé, eau chaude sanitaire et rafraîchi.
Un 25e réseau de froid renouvelable. À ce train-là, on ne remplira jamais les objectifs de la programmation pluriannuelle de l'énergie en 2028, selon la représentante d'Engie.
2018 et 2019 ont été les deux années les plus chaudes depuis l'année 1900. On n'est plus du tout dans un contexte de froid, de confort. On est maintenant dans un besoin de froid sanitaire. De plus en plus d'élus viennent nous voir en nous disant « je veux rafraîchir durablement avec un réseau de froid mes crèches ».
Des réseaux de froid renouvelables qui ne représentent que 7% des besoins en France.
Delphine Simon, et le saviez-vous, la maison de la radio abrite par exemple une centrale thermodynamique qui permet de se chauffer et de se refroidir grâce à l'eau de la Seine. C'est une première victoire et un revirement pour la pop star Britney Spears. Son père renonce à la tutelle qu'il exerce sur elle depuis 13 ans. Une tutelle qualifiée par la chanteuse d'abusive. Après une descente aux enfers en 2008, son père avait pris le contrôle total de la vie de sa fille de 39 ans et surtout des finances de la chanteuse. Depuis des années, une armée de fans, y compris en France, milite sur les réseaux sociaux, également parfois dans la rue, pour libérer la chanteuse. Le départ du père de Britney Spears est donc une première étape dans cet imbroglio familial et financier. Loïc Pialin.
Perçu par les fans de la pop star comme un homme forçant sa fille à travailler pour en tirer les bénéfices, Jamie Spears a fini par céder à la pression. Même si selon son avocat, rien ne justifie légalement son retrait de la tutelle, il ne croit pas qu'un affrontement public soit dans le meilleur intérêt de sa fille et part de son plein gré. Il y a 2 ans, il avait déjà renoncé à s'occuper de la santé de Britney Spears pour ne gérer que sa carrière. L'avocat de la chanteuse se réjouit de cette décision, mais prévient qu'il va continuer à enquêter sur la conduite de Jamie lors des 13 dernières années. Au tribunal, en juin dernier, Britney Spears avait déclaré que ses tuteurs méritaient la prison pour la façon dont ils l'ont traitée. L'artiste refuse de se produire sur scène tant que son père maintient un contrôle sur elle. Spears a réagi à l'annonce sur son compte Instagram avec le simple dessin d'une femme de dos, des fleurs dans les cheveux. À Los Angeles, Loïc Pialat pour France Inter.
Une nouvelle audience est prévue pour le 29 septembre.
Merci Laurence Thomas. Dans 3 minutes, le Zoom avec le meilleur des grands reportages de la rédaction cette semaine à 8 mois de la présidentielle, un état des lieux de la France. On retournera près d'Orléans chez les Duralex. L'entreprise symbole des cantines françaises a été reprise en janvier dernier par Pyrex.